tour du monde avec le chef Voilà et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles aux émissions du Ramadan sur Beurre FM. Je suis ravi d'animer le tour du monde que vous pourrez retrouver pendant tout le mois de Ramadan du lundi au vendredi de 18h à 19h. Nous partirons chaque jour dans un nouveau pays pour un savoureux voyage culinaire tout autour du monde pour découvrir les traditions locales du tour ainsi que les recettes emblématiques du mois de Ramadan. Et pour nous guider avec gourmandise et bonne humeur pendant ce tour du monde, le chef Voilà sera avec nous chaque jour. Bonjour chef Voilà, vous avez bien pensé à prendre votre passeport?
Salam alaikum, bonjour Manu, bonjour à tous et à toutes. Oui ça va, j'ai bien pensé à prendre mon passeport et puis je vais éviter de trop bouger vu la circulation qu'il y a pour venir ici. On a commencé avec 2 heures d'embouteillage.
On va vous installer à une chambre, chef. Voilà.
Donc on va commencer très gentiment. Je vais peut-être prendre déjà une location dans les studios derrière.
C'est ça.
Pour être à l'heure tous les jours, au moins pendant le mois du Ramadan.
Un Airbnb spécial Ramadan. Voilà, elle est assise à côté du hublot, mais elle n'est pas dans les nuages pour autant. C'est Selma qui est avec nous. Bonjour Selma, on décolle dans une minute. Est-ce que vous avez attaché votre ceinture?
Tout à fait. Attaché la ceinture, préparer ce qu'il faut pour passer une excellente heure ensemble. Bonjour Manu, bonjour chef Voilà.
Bonjour Selma.
Bonjour Selma.
Et pour la première escale de ce tour du monde, nous avons choisi de poser nos valises dans le nord de l'Inde, plus précisément au Pendjab. C'est une région culinairement très riche qui est à cheval sur le nord de l'Inde et l'est du Pakistan. Alors pour nous guider à travers cette cuisine ancestrale riche d'histoire et de goût, nous accueillons un spécialiste, Tayab Syed, qui est bonjour. Propriétaire du restaurant le Jaipur Café à Paris 10e. Bonjour Tayab, merci d'être avec nous.
Bien sûr, plaisir, plaisir.
Alors Tayab, déjà, il y a une question très importante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le curry est une épice, mais c'est un mélange d'épices. Il existe combien de recettes de mélanges différents?
Oh là là, ça c'est plusieurs mélanges d'épices. Hein. C'est le curry, c'est du base. Hein. Le curry, c'est du base, donc la base qu'on prépare le plat. Donc on prend toujours le curry. Par exemple, quand on a besoin de préparer le poulet butter, ça toujours on a besoin de curry. Quand on a besoin de politique comme ça, là toujours on prend un petit peu de sauce curry. Et après, quand on a chaque plat qu'on a besoin, c'est toujours avec la sauce curry, c'est du base. C'est base, c'est quoi? Des oignons, tomates, avec des épices, tout ça, c'est mélangé, déjà préparé.
D'accord, donc c'est une base qu'on agrémente après de diverses épices, etc.
Tout à fait,
etc.
Voilà.
D'accord.
Alors, c'est aussi, excuse-moi, Manu, c'est aussi une base, mais une base, on peut l'avoir en deux fonctions. On peut l'avoir en poudre, c'est-à-dire moulu, tout simplement, comme on va le voir nous dans notre recette. Puis on peut l'avoir aussi en pâte fraîche, ce qui est souvent.
Ouais, comme en Indonésie, par exemple.
Exactement, comme en Indonésie. Donc là, effectivement, on a une base d'ail, d'oignon.
Là, on parle de pâte d'épices, d'ailleurs.
Voilà.
Et cette... Mais d'ailleurs, vous me faites penser à quelque chose. Voilà, c'est que le terme curry, c'est pas le terme qu'on emploie en Inde ou en Pakistan. On parle plutôt de masala pour le mélange d'épices. Le curry, c'est plus le nom du plat, en fait, de la façon de cuire. C'est un plat en sauce.
Dis, c'est la base. Comme
d'accord.
Quand on parle de restaurant indien, c'est toujours la base du tandoori et curry.
D'accord.
C'est-à-dire, tandoori, c'est le nom de four. On dit c'est tandoor. Tandoor, c'est pour le griller. C'est-à-dire pour préparer du pain, de sortir toutes les viandes grillées par le tandoor. Et le curry, c'est du base pour préparer le plat.
Ça, ouais, d'accord. Donc, c'est un terme générique, comme si on parlait effectivement d'un ragoût ou d'une soupe. C'est un terme générique qui peut s'adapter qui peut s'appliquer à plusieurs plats. Alors, Selma, parlez-nous un petit peu des différentes cuisines de l'Inde.
De
parce
l'Inde.
Que là, on va parler surtout du Pendjab avec Tayab Syed. Mais parlez-nous un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de régions gastronomiques en
exactement.
Inde, parlez-nous un petit peu de ça.
Exactement. En effet, l'Inde, c'est plus de 3 millions de kilomètres carrés, avec des zones maritimes, d'autres montagneuses, mais aussi de grandes zones agricoles. Mais c'est également la deuxième population mondiale, juste derrière la Chine, et donc on y trouve de nombreuses ethnies et donc de différentes cuisines différentes l'une que l'autre. Donc, il y a aussi un autre élément qui a influencé la cuisine indienne, c'est à savoir les nombreuses invasions et le passé colonial de l'Inde qui ont eu une influence sur sa gastronomie. Par exemple, les musulmans moghols qui occupaient le nord de l'Inde ont par exemple apporté leur kebab ainsi, Tayeb si je me trompe vous me corrigez,
oui.
apporté leur kebab ainsi que le mode de cuisson au four que l'on appelle comme vous venez de dire
le fameux tandoori. Oui.
Kebab qui a été repris par les Turcs puisque les Turcs
mais les Turcs l'écrivent avec un P non c'est ça
et exactement
voilà.
Ils disent kebab et en kebab
voilà exactement mais nous on mange les deux franchement
ouais. Alors ils ont mais c'est bon manger deux mais ils ont une spécialité attention kebab
bon, ça se prononce pas pareil mais ça se mange pareil
voilà mais attention non parce qu'en fait quand tu dis kebab
c'est ouais. différent.
En France, quand vous dites kebab pour un kebab, pour un sandwich. Kebab, c'est le mode de cuisson.
aussi.
Oui, kebab, ça veut dire grillade. Ça veut dire grillade. Hein.
Ouais. Grillade, exactement.
Ne pas confondre avec le doner kebab, qui est une invention moderne d'ailleurs, qui n'est pas du tout.
Occidentale peut-être.
Exactement.
Et puis, dans quelques grandes villes, où on appelle aussi ces grandes villes, donc les comptoirs des épices, quant à elles, donc ces villes-là ont influencé par les pays colonisateurs comme la France, l'Angleterre et le Portugal, on y généralise la consommation de la viande, alors que l'Inde, on sait très très bien que c'est un pays majoritairement, j'y arrive, végétarien, soit par croyance, soit par nécessité aussi économique. Donc, j'allais parler du curry, mais vous l'avez très très bien expliqué tout à l'heure. Donc, sachez tout simplement que le curry, c'est comme le couscous, à chacun sa sauce, à chacun sa recette. Donc, mais c'est toujours aussi bon le curry en Inde. Juste un dernier point. Donc, les cuisines, les différentes cuisines de l'Inde, c'est une cuisine très parfumée. C'est une cuisine différente. La spécialité, c'est qu'ils ont associé différentes saveurs, non pas par nécessité et par obligation gustative, comme on en fait en Occident, mais plutôt par nécessité médicinale. La cuisine indienne est réputée pour tenir compte de l'importance de l'apport de la médecine dans ces plats-là ou dans ces ingrédients-là.
Et la nutrition et la santé.
Exactement.
Avec le curcuma, notamment.
En même temps, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'épices. Voilà.
On a l'impression qu'on découvre le curcuma en Europe, alors que c'est en Inde depuis très longtemps.
Ça a toujours été des excellents cancérogènes, anticancérogènes. On l'a toujours su. Sauf que nous, effectivement. Dans la situation de maintenant et dans le monde moderne dans lequel on vit, il est plus facile de donner des antibiotiques ou des médicaments que des traitements naturels.
Exactement. Et donc, la cuisine indienne, elle a sa propre philosophie, c'est soigner le corps par l'alimentation et par les petits plats colorés qu'on adore.
Très bien.
Voilà.
Merci Selma. Alors, Tayeb, justement, est-ce que dans toutes les régions de l'Inde et puis aussi au Punjab côté Pakistan, est-ce que il y a une vraie culture comme ça de l'alimentation qui soigne en même temps, c'est-à-dire qu'on mange pour se nourrir, mais on mange aussi pour faire du bien au corps?
Écoutez, tout à fait. Regardez, rien que pour on utilise la télamonte, par exemple, Télamonte.
Non, excusez-moi, c'est moi qui l'ai pas. C'est toi qui vas lire qui est ton exposé qui est magnifique, ouais. C'est pour ça.
Non, mais je préfère qu'il y ait un chef qui parle avec le bon accent, tout ça, et qui expliquera bien. Donc, ça veut dire. En fait, on a parlé même.
Mais on comprend très bien malgré votre accent,
bien,
Tayeb.
Je le dis parce que là, les gens, ils parlent de masala, chaque fois, excuse-moi, par rapport à l'autre.
Bien sûr,
je viens après. Donc, je peux parler un petit masala, c'est quoi le masala? Donc, le masala, c'est mélange à plusieurs épices.
D'accord.
Qui ça marie ensemble. Après, en fait, je. Laisse un chef qui
veut que j'explique en fait. Ça,
voilà. Donc,
en fait, c'est vrai que beaucoup de gens se demandent c'est quoi le curry. C'est un mélange de plusieurs épices. Alors, effectivement, on va avoir des épices principaux. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir du curcuma, du poivre noir, du fumet grec. On peut mettre de l'anis, on peut mettre de la coriandre. On peut mettre beaucoup de choses de gingembre, du girofle aussi. Moi, je mets dans ma recette, on aura du gingembre et du girofle.
C'est comme le ras et la loutre. Il y a autant de masala que de vendeurs d'épices, en fait.
Mais dans la recette masala, et justement la différence du curry, c'est pour ça que justement je voulais rebondir sur ce que tu disais, Manu, tout à l'heure. Le curry, en fait, en lui-même, pourquoi la différence masala, la différence curry? Ben, masala, c'est la pâte. En fait, c'est quand on fait une pâte, par exemple, comme c'est le cas pour justement la pâte à tandoori masala que notre chef nous a expliqué, dont je vais vous donner sa recette dans deux minutes. Et ensuite, on a le curry qu'on a plus l'habitude d'utiliser en poudre, donc pour lequel on va parfumer notre viande, notre crème, nos appareils, qu'on va mélanger aussi avec du lait de coco, notamment beaucoup de choses sucrées un petit peu avec le curry. Mais le curry de base, pour le masala, voilà la base du chef, donc du restaurant, je vais juste vous citer donc ce que lui a voulu mettre en base.
D'accord.
Ce qui ressemble beaucoup au curry, vous allez comprendre la différence, il n'y a pas grand chose. Donc coriandre, bien sûr. Fénugrec, grec, donc vous savez ce que
c'est. Coriandre, là, on parle de coriandre moulu,
Coriandre en graines, carrément.
En graines, d'accord.
Voilà. Tout là, tout est en graines.
Oui, ça, mais on pile les épices après.
Exactement.
C'est ça, ouais.
À la base, deux options. Soit un mouloir pour pouvoir moudre,
un moulin, oui.
Un moulin. Des fois, je dis des bêtises. Pour pouvoir moudre, justement, toutes ces graines. Soit, un mortier dans lequel on va pouvoir piler justement naturellement, mais là les deux techniques sont bonnes, sauf que la première, il faut bien comprendre qu'une des deux ne peut pas se conserver. Pourquoi? Parce qu'en fait, celle au masala, dans l'idéal, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le problème sur les oignons actuellement aujourd'hui, l'intoxication qu'il y a dans les oignons quand ils sont coupés et qu'ils sont utilisés 2-3 jours après, c'est connu maintenant mondialement.
Ils fermentent un peu,
c'est exactement, ça, c'est horrible, ça bousille tous les plats et ça bousille aussi surtout l'estomac, le microbiote, et ça devient un poison. Donc, dans sa façon de faire, préparer la pâte, il faut la préparer, j'ai envie de vous dire, le matin pour la faire.
Oui, ouais, ouais. Voilà. De toute façon, dans un restaurant, j'imagine
exactement.
Que vous faites...
Voilà, exactement.
Tout mais ça. Vous confirmez, chef, voilà, que quand on passe les épices au mortier au dernier moment, ça a toujours plus de saveur que quand c'est fait à l'avance ou que quand on utilise des épices qui sont déjà en poudre.
Quand je te donne une sauce que tu commences à la faire chauffer, que tu commences à faire réduire ta viande, revenir ta viande avec tes oignons et que tu commences à l'épicer, qu'est-ce que tu vas sentir? Les épices qui montent, on est bien d'accord?
Bien sûr. Ouais.
Quand tu mets l'eau, c'est terminé, il n'y a pratiquement plus rien. Tu vas mettre ta cocotte et tu vas sentir l'odeur donc des épices qui vont remonter pendant tout ce temps. Une fois que la cocotte elle est refroidie, tu sens plus ces épices. Donc
c'est
bien évidemment.
C'est pour ça qu'on cuit les épices pour les torréfier, c'est pour qu'elles développent leur saveur.
Et quelle torréfaction? Attention à la torréfaction, parce que beaucoup de torréfactions sont utilisées très mal, c'est-à-dire qu'on torréfie pour torréfier en France, par exemple, déjà ils font un gaz. Et oubliez les plaques vitrocéramiques, tout ça, ça ne fonctionnera pas, c'est pas assez puissant. Il faut une poêle, si possible, acier, c'est mieux.
C'est un peu compliqué, parce que notamment à Paris, dans les immeubles, il n'y a plus de gaz dans les immeubles maintenant, pour les raisons de sécurité.
Enfin,
tous les nouveaux immeubles qui sont construits, maintenant, tout est électrique.
Tu as tout à fait raison.
Il y a l'induction qui n'est pas trop loin du gaz.
Oui, mais l'induction, elle ne chauffe pas la poêle entière. Alors, c'est pas grave. On a maintenant des poêles sans manche, dans lesquelles on peut mettre au four. Vous mettez votre poêle au four, très, très, très chaud. Et ensuite, vos graines à torréfier dans la poêle chaude jusqu'à le temps qu'elles refroidissent. Vous enlevez ces graines une deuxième fois, vous remettez votre poêle au four et vous faites trois fois suite pour bien torréfier vos graines sans les brûler. Parce qu'il y a torréfaction et torréfaction. Et là, effectivement, vous pourrez récupérer le meilleur de ces graines qui doivent être... Donc, normalement, passer au moulin ou tout de suite au mortier.
Ou au mortier.
Voilà. Oui. Quand elles sont encore un peu tièdes. Pour avoir, comme tu disais, Manu, le maximum de saveur et le maximum de fraîcheur. Et surtout le maximum de goût, bien sûr.
Ok. Alors, pour en revenir un petit peu au ramadan, Tayyab, dans la plupart des pays du monde, les musulmans cassent le jeûne en mangeant une date. Est-ce que c'est aussi le cas en Inde, au Pakistan, ou est-ce qu'il y a des traditions particulières?
Écoutez, tout à fait exactement pareil. La date, c'est dans un monde
entier. C'est international.
C'est sacré,
international.
Je pense.
C'est dans le Coran même.
Voilà, ouais. Même ils sont emportés par Arabie Saoudite, Dubaï, ou n'importe où. Donc, c'est toujours, en fait, on dit, je sais pas, c'est par la... Je peux pas utiliser le mot, mais c'est important. On dit
c'est le fruit de base, ouais. C'est le fruit ramadanesque. C'est-à-dire que peut imaginer un ramadan sans la date.
Pourquoi? Sans la date, c'est impossible. Voilà.
Pour tous, c'est bien.
Même pendant toute l'année, s'il ne mange pas, mais pendant le ramadan, alors, il faut, c'est important. Même,
d'accord, oui.
Ouais, c'est important qu'il faut chercher n'importe où, mais la date, ils vont casser avec la date.
Et alors après la date, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit?
Alors, donc, pour l'iftar, donc, déjà, donc, toute la journée, on reste sans manger, sans boire, tout ça.
Évidemment, oui.
Alors, donc, commence par la date et ensuite on a plusieurs types de boissons. Alors la boisson indienne, c'est le lassi.
Alors le lassi qui est très bon. Donc expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le lassi, si on a des sucrés et des salés déjà.
Tout à fait. La lassi, alors lassi, il y a plusieurs parfums qu'on peut faire. C'est la base du yaourt avec du lait caillé. Après, les parfums qu'on peut choisir, ils peuvent être sucrés, salés. Donc on peut préparer la menthe aussi, banane, mangue, rose, pétale de rose, tout ça. Donc après, on a même temps pour avec le nimbopani, c'est aussi côté le Punjab, c'est très connu. C'est avec citron, jus de citron, avec de l'eau, avec un peu de sucre, tout ça.
D'accord.
Ça mélange.
Citronade,
voilà, qui ça donne l'énergie pour récupérer l'énergie de toute la journée qu'on a perdue. Et voilà, donc ensuite, vous savez, pendant le ramadan, c'est comme le fête. Hein.
D'accord.
Et si on ne fait pas toute l'année, on ne fait pas autant de repas, pendant le ramadan, on fait de inam. Okay. C'est-à-dire, si on ne commence pas le beignet, si on commence à compter le beignet, alors donc là, c'est beaucoup de beignets sortiments avec le grillade. Ensuite, il y a du soupe. Ensuite,
en fait, c'est Noël tous les soirs.
On commence bien le ramadan. Moi qui est en train de dire qu'il ne faut pas beaucoup manger.
Alors, Tayyab, au Punjab, est-ce que la rupture du jeûne, le iftar,
ouais.
comme on dit en Inde, est-ce que le iftar, c'est quelque chose qu'on fait principalement à la maison, en famille, ou est-ce que c'est aussi l'occasion de sortir, d'aller voir des amis, d'aller au restaurant? Comment ça se passe?
Alors, non, c'est plus par la famille. Hein. Donc, toute la journée, même si je travaille, ils font aller n'importe pour tout, donc l'heure de iftar, toutes ces réunions à la maison. Donc au maximum aussi de passer à la maison en fait.
D'accord, c'est très familial. Mais
après c'est occasion, donc par semaine une fois dans la famille quelque part, si sont invités dans un restaurant, dans un chez d'autres familles, tout ça, ça passe comme ça. Sinon, la plupart c'est la maison avec la famille.
D'accord. Alors je me posais une question en préparant l'émission, c'est il y a pas une gastronomie en Inde, il y a des gastronomies, c'est-à-dire que au sud on va surtout manger végétarien, on va accompagner avec du riz. Vous dans le nord et au Punjab en général, avec l'influence musulmane des Mogols,
on
mange plutôt de la viande et on mange plutôt avec du pain qu'avec du riz.
Avec le pain.
Les fameux naan.
Fameuses cheese naan, du naan, avec le kima naan, naan de viande.
Kima naan, pour expliquer, c'est des naan fourrés à la viande d'agneau haché.
Tout à fait, viande hachée. En fait, on peut, comme je vous ai fait goûter la semaine dernière, vous étiez là, vous avez goûté avec le fromage aussi.
Oui.
C'est-à-dire que la viande hachée, on a rajouté avec le fromage, avec l'ail, tout ça. Donc, c'était super bien.
Alors, une question sur le cheese naan, Taïeb, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que la plupart des restaurants indiens mettent de la vache qui rit dans leur cheese naan. Alors, a priori, il n'y a pas de vache qui rit en Inde, du moins à l'époque où a été inventé le cheese naan. Pourquoi on met de la vache qui rit en France? Enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup. Est-ce que c'est parce que normalement on doit utiliser un fromage qu'on trouve peut-être pas en France, c'est ça?
Alors je vous explique déjà l'histoire de cheese naan. Pour moi, c'est l'Inde, ça n'existe pas.
Ah d'accord.
Alors c'est la cheese naan, c'est inventé ici pour la France.
Existait, c'est ce que j'ai
alors
dit.
Voilà. D'accord. Voilà, cheese naan, c'est inventé pour le parce que ce formateur de fromage. Alors dans notre cuisine indien, on n'a pas de malheureusement aucun plat qui s'abat avec le fromage tout ça. Donc là c'est pour faire le plaisir à les gens ici. Donc on a créé un naan fromage par un chef, j'ai oublié son nom, donc c'est très haut à l'époque.
C'est en France, c'est pas en Angleterre.
Alors là maintenant c'est parti dans un monde partout cheese naan, mais c'est inventé ici en France un cheese naan.
D'accord. Donc c'est comme le doner kebab qui a été inventé en Allemagne par quelqu'un d'origine turque.
Exactement, d'où le Philadelphia pour aller avec le cheese naan. En fait, c'est le fromage qui serait utilisé. D'autres utilisent du kiri ou de la vache kiri. En fait, cheese naan, ça veut dire cheese naan.
Juste fromage. Oui, naan fromage. Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est une recette qui ne vient pas d'Inde en fait et qui a été inventée. C'est comme certaines recettes chinoises qu'on mange aux États-Unis qui n'ont jamais existé en Chine.
Exactement.
Comment s'appelle la poêle dans laquelle on cuit les naans?
Tandoor. Hein.
C'est pas une poêle, c'est le four tandoor.
C'est un poêle.
2000 degrés. 2000 degrés le four.
Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu quel est le fonctionnement?
Après la pub, Jamel, on reviendra sur le tandoor et on parlera de la façon de cuire au four tandoori. Restez avec nous. Nous sommes toujours avec Taïeb Syed du Jai Kapoor Café et on parle de la tradition du ftour et du ramadan en Inde et plus particulièrement au Punjab.
Ftour du monde.
Ftour du monde.
Reviens dans un instant. Tour du monde avec le chef Voilà et Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le tour du monde du chef Voilà avec notre invité du jour Taïeb Syed qui vient nous parler de la tradition du ftour et du ramadan en Inde et plus particulièrement au Punjab. Et chers auditeurs, si vous avez des questions à poser sur la cuisine indienne, la cuisine du Punjab ou des questions à poser au chef Voilà, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000, je répète 01 53 48 3000. Et d'ailleurs toujours pour les auditeurs, Taïeb, à partir de demain et tous les soirs du ramadan, vous proposerez un magnifique menu iftar exclusivement pour les auditeurs de Beurre FM qui sera proposé à 19,90€ tout compris.
Tout à fait,
et en plus, c'est un buffet à volonté, ce qui fera très plaisir à Nabil, notre responsable marketing. Alors,
qu'est-ce que je veux dire à Nabil.
Vous venez de dire un buffet à volonté, Manu.
Un buffet à volonté, oui, sachant que j'ai vérifié.
Il y a un grand point d'interrogation rouge sur ma tête là.
Alors, non, mais justement, parce que vous savez ce que je pense des buffets à volonté.
Exactement.
En général, mais quand on a préparé l'émission avec Taïeb, j'ai vérifié avec lui que effectivement il allait servir dans ce buffet à volonté exclusif pour les auditeurs de Beurre FM. En plus à ce prix-là, ce sont les mêmes plats qu'à sa carte que j'ai goûté et qui sont absolument délicieux. Les produits sont frais, les produits sont très bien cuisinés. C'est vraiment du Jaipur Café, c'est vraiment une table traditionnelle gastronomique. Et donc Taïeb, ce sera sur dans une petite salle à part. Donc
tout
vous ferez une table, une petite salle à part pour le ftour.
Exactement. Je vous ai fait visiter la dernière fois.
Tout à fait. Oui.
Donc on on a préparé déjà une petite salle uniquement pour le buffet pour le mois de Ramadan.
D'accord.
Donc j'aurai 3-4 entrées, différents végétariens, non-végétariens. Et pareil, je proposerai 3-4 plats aussi.
D'accord.
Végétariens, non-végétariens, c'est qui sera servi avec du riz. Ensuite, il y aura du dessert, un peu de salade, un peu de la date aussi qu'on mettra
au début. Foot,
voilà, donc pour faire l'iftar.
Très bien.
Et voilà, donc on essaie de compléter tout le menu pendant le Ramadan et on changera. De temps en temps avec le menu.
D'accord, vous renouvelez, c'est-à-dire si voilà, on revient dans le mois du Ramadan, si on vient
donc
dîner
on
chez
mangera
vous,
pas la même chose chaque fois. Donc,
voilà, si on vient faire le tour, on pourra manger des choses différentes
tout
à chaque fois.
Tout à fait. Ouais.
Alors on précise aux auditeurs que toutes vos viandes et toutes vos volailles sont halal, bien entendu.
Halal, ouais.
Alors donc pour bénéficier de ce tour spécial pour les auditeurs de Beurre FM, comment on fait? On réserve chez vous de la part de Beurre FM, on téléphone, on peut venir aussi sans réservation?
Alors, donc, mon avis, ce sera bien s'ils sont réservés par le Beurre FM.
D'accord. Donc, on vous appelle. On va en profiter pour donner le numéro de téléphone et l'adresse.
Exactement.
Donc, vous appelez au Jaipur Café au 01 48 01 06 00. Donc, c'est à partir de demain soir à l'heure du ftour. Donc, vous êtes ouvert 7 sur 7 de 12h à 14h30. Ça, pendant le Ramadan, ça va pas beaucoup servir. Et de 19h, pardon, à 23h30 le soir. Ouais. C'est au 15-17 rue des messageries à Paris 10e et le numéro de téléphone, donc je répète 01 48 01 06 00 et le site internet c'est jaipurcafe.fr, jaipurcafe.fr. D'ailleurs, le 15-17 rue des messageries, moi je connais cette rue des messageries parce qu'il y a un restaurant que je connais et que j'aime beaucoup qui s'appelle Porte 12, juste en face de votre restaurant, qui est un restaurant étoilé dont le chef était candidat du dernier Top Chef.
Tout à fait.
Et donc, c'est un chef qui vient dîner chez vous aussi.
Tout à fait. Régulièrement, en fait, qui mange chez moi. Donc, ils sont des amis aussi. Même derrière son père aussi, qui sont passés chez moi pour manger. Donc, on a toujours fait un très bon contact.
Mais c'est des voisins aussi, hein.
Oui, c'est des voisins aussi.
Voilà,
mais c'est vrai
quand
que.
Du chef, bon. Ça critique bien. Vous savez, à côté, moi, j'ai le chef, donc il ne va m'en pas pardonner. Hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils vont dire directement.
Non, c'est vrai que les chefs, entre eux, justement,
peuvent se donner des conseils.
Exactement.
C'est de la critique positive. Sinon, quand vous avez le temps, vous pouvez aller manger chez lui, j'imagine, et c'est la même chose.
C'est ça comme question.
Exactement. Donc,
moi, j'ai une question sur la cuisine indienne. La cuisine du Bangladesh, du Pakistan, tous ces pays-là, sont et finalement de la cuisine indienne. Même aux îles Comores, figure-toi, hein, quand tu parles d'épices, il n'y a que ça. En Indonésie également, on a fait des émissions sur les pâtes à épices. Et... par exemple, le samoussa, qui est très réputé en Inde, il est réputé aussi aux îles Comores, comme en Indonésie, donc il est réputé à peu près partout. Est-ce que, finalement, cette variante de cuisine indienne est une cuisine qui va au-delà, finalement, de l'Inde ? Ou qu'est-ce qui ferait la différence entre la cuisine indienne et la cuisine, par exemple, du Bangladesh ou indonésienne, sachant que presque les mêmes épices sont utilisées.
Alors, donc, après, je dis pour présenter la cuisine de chaque coin, c'est du on dit street food. C'est chaque partie qui se présente leur repas. C'est-à-dire, si vous allez vers le sud de l'Inde, là, carrément, vous trouverez la différence à leur repas. Si vous allez vers le nord, vous trouverez la différence. Si vous voyagez vers le Jaipur, tout ça, donc vous trouverez la différence. Si vous voyagez vers le Pakistan, au Punjab, là, carrément, c'est la différence. Alors, si vous voyagez encore un peu plus loin vers le Bangladesh, vous trouverez carrément différent. Donc, tous, ils utilisent le nom de l'Inde. Indien, restaurant indien. Mais nous, on présente haute gastronomique. Gastronomique, c'est-à-dire que
c'est la cuisine des Maharajas, c'est ça.
La cuisine de Maharaja, qui ça touche un peu tout la partie.
Qui est beaucoup plus fine.
Exactement.
Plus onctueuse. Bah oui, effectivement, la différence qu'il va y avoir dans la cuisine qu'on va trouver en Inde, un peu partout, d'ailleurs en Indonésie aussi également, c'est beaucoup des cuisines qui sont, on va dire, surpuissantes en épices. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Et effectivement, dans la cuisine, en fait, gastronomique, on va dire indienne, on va retrouver ces épices, mais avec un raffinement plus structuré au niveau du palais. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tantôt sentir telle épice, tantôt sentir telle épice. Exactement. Ce qui est compliqué quand on a beaucoup d'épices en bouche, justement.
C'est très intéressant ce que vous dites, chez voilà, parce que effectivement, quand j'ai dîné chez Tayab, c'est vrai que j'aime beaucoup la cuisine indienne, mais c'est vrai que ça faisait un moment que je n'allais plus très souvent au restaurant indien parce que j'étais assez déçu. C'est vrai que quand on rentre dans un restaurant indien et qu'on goûte les différents currys, tous les currys ont un petit peu le même goût, même si on change de recette. Et c'est vrai que au Jaipur Café, chaque curry a vraiment un goût spécifique. Donc c'est vrai, Tayeb, qu'on sent que vous avez vraiment une recette de curry différente pour chaque appellation, quoi.
Ah oui. Au niveau de ça, je suis très un peu chiant avec mon chef. Donc quand on dit un poulet tikka masala, c'est poulet tikka masala. Donc c'est pour pas être un poulet sauce normale. Vous voyez, donc c'est base du curry. Donc c'est vraiment on utilise la sauce masala. Quand on parle de poulet butter, c'est poulet butter uniquement. C'est un
poulet butter, c'est le butter chicken. Donc c'est une sauce avec de la tomate,
très fameuse dans le restaurant indien. Mais alors, sachez bien, le restaurant indien, quand on parle de restaurant indien, poulet tandoori, tout le monde dit poulet tandoori, mais chaque restaurant a la façon de présenter, de préparation différente.
D'accord.
Les épices, c'est différent. Donc, pareil, exactement, quand on présente poulet butter. Poulet butter, c'est carrément différent. Je ne voudrais pas dire la recette ici parce que c'est un secret. C'est...
c'est vraiment parce que. Vous nous dévoilez des secrets, on est là voilà, pour ça.
C'est comme le Coca-Cola.
On va le dire.
Donc c'est poulet butter. C'est-à-dire que moi, j'ai dû habituer qu'il y a chez moi qui venait souvent manger chez moi. Donc, un jour, ils sont partis ailleurs dans d'autres restaurants. Donc, ils se commandent les mêmes choses, le poulet butter. Alors. Là, ils sont revenus. Il m'a dit, monsieur Syed, on a mangé poulet butter. Il y a chaque restaurant un poulet butter. Mais nous, on mange chez vous poulet butter, c'est pas pareil. Et là, je vous ai expliqué.
C'est vrai que je l'ai goûté aussi. Voilà. Il est très bon, très onctueux.
Voilà. Donc,
on utilise le ghee comme beurre en Inde, c'est
exactement.
Ça, qui est un espèce de beurre clarifié, ouais, fermenté. Ouais.
Mais le nom du beurre, mais on met pas autant.
Est-ce qu'on peut avoir au moins une astuce? Allez, une astuce pour nos auditeurs et nos auditrices quand même, pour justement leur donner envie de venir. Après, je vous rassure, 99,5% de nos auditeurs ne reproduiront pas la recette.
Non, c'est pas pour l'auditeur, c'est la concurrence.
D'accord.
Je parle pour la concurrence, pas pour l'auditeur. L'auditeur, il peut passer chez nous avec grand plaisir, il peut prendre la recette, il n'y a pas de souci. Hein. Il déplace au Jaipur Café, donc je donnerai avec grand plaisir la recette, il n'y a pas de souci.
Vous savez que je suis sûr que si vous leur donnez la recette.
Même vous aussi, hein, si vous passez au Jaipur Café, je donnerai à Ivan exactement la recette, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas
en secret.
C'est exactement.
Alors, Tayeb, tout à l'heure, vous parliez de street food. C'est vrai que dans le sud de l'Inde et dans les grandes villes, il y a beaucoup des shops de street food. C'est un peu une culture très répandue. Est-ce qu'au Punjab, il y a aussi cette culture de la cuisine de rue comme ça?
Tout à fait. C'est partout. Hein. C'est charme de pays, quoi. C'est la street food. S'il n'y a pas de street food, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur de votre culture.
C'est la base de tous les pays. Hein.
C'est tous les pays. Donc, c'est exactement pareil si vous voyagez à Lahore. Lahore, c'est une ville que vous pouvez manger 24 sur 24.
D'accord, oui.
24 sur 24.
Oui, Selma.
En fait, je voulais poser une question à Tayeb. Est-ce que dans vos tables de l'Iftar, est-ce que la street food existe ou pas du tout?
Non, je veux garder la qualité, en fait.
Je ne dis pas
qu'elle n'est pas qualité. Je te dis que mon niveau, parce que comme j'ai déjà présenté une cuisine haute gastronomique,
okay.
Niveau de ça, je veux essayer de garder la même qualité. Parce que les gens, ils ne vont pas penser, ah tiens, c'est buffet, il sera... pas servi très très bien.
Oui, c'est ce que
donc
c'est
moi
ce
je
que, pardon. Ouais. Allez-y Tayeb, allez-y.
Qu'est-ce qu'on avait parlé au Dubo aussi, donc il m'a dit les gens ils pensent que le bouffer souvent c'est pas bonne qualité tout ça.
Ça c'est vrai.
Alors là pour un mois de Ramadan
classiquement en Inde il y a pas de street food sur les tables. C'était une question juste pour savoir d'ordre culturel en fait.
Ce qu'explique Tayeb, c'est quand on a effectivement préparé l'émission, en fait comme il fait de la cuisine des Maharaja qui est une cuisine impériale en quelque sorte, il veut proposer sur son buffet cette même cuisine, donc qui est une cuisine plus raffinée que la street food indienne.
À un moment donné, tu ne peux pas faire en street food ce que tu fais dans un restaurant gastronomique. Il faut être réaliste aussi. C'est pas la même préparation, c'est pas le même temps.
Oui, mais il y a des restaurants qui auraient pu être tentés de faire plus bas de gamme sur le buffet, même si la carte
bien
est gastronomique.
Sûr.
Alors que là, nos auditeurs trouveront sur le
parce
buffet.
Que street food, ça veut dire quoi?
C'était juste de la curiosité pour savoir, même comme les petites assiettes, vous savez, en mésée, juste. C'est tout. Est-ce que ça se fait ou pas? Vous avez répondu à
donc,
ma question.
Donc là, buffet aussi, je vous appelle, il sera uniquement pour le soir, pas le midi.
Oui.
Alors, donc, deuxième chose, il sera que pour le mois de Ramadan.
Le midi, ils vont pas manger pendant le Ramadan.
Oui, non. C'est-à-dire que c'est pas un menu qui va continuer après le Ramadan, quoi.
Chez moi, il y a du kilien.
Parce que sinon, à 19,90, vous allez pas tenir l'année, Tayeb.
Il y a du tout est culture, donc je respecte. Donc, les gens qui travaillent dans chez moi, donc à côté, donc les gens, ils peuvent déjeuner aussi. Donc,
ça veut
aussi.
Dire que les non-musulmans, ils peuvent manger, ils peuvent profiter de ce menu aussi.
Exactement.
C'est pas
un certificat pour le musulman, en fait. C'est pour tout le monde.
D'accord.
Pour tout le monde, pour profiter de cette offre, quoi.
Alors Jamel, donnez-nous un truc et astuce. Comment fait-on un bon curry? Vous avez 2 minutes.
J'ai 2 minutes, ça va être trop compliqué pour
ça. Ça va être chaud.
Allez, c'est vrai. Bon. Alors, non, ça va aller vite. Alors en fait, vous preniez. Moi, je vais vous donner mon curry façon chef. Voilà, c'est ce que j'appelle un curry à l'ancienne. Vous allez prendre donc 2 cuillères à soupe de coriandre, 2 cuillères à
soupe de coriandre de là en grain ou
toujours en grain.
En grain.
Ce que je vais vous donner, je vous donne la recette du curry. Que justement, on va pouvoir passer très rapidement. Donc, okay. Une mesure, alors 2 cuillères de cumin, 2 cuillères de poivre noir en grain, il va réveiller un petit peu les saveurs chaudes et boisées. Une mesure, ça veut dire à peu près 15 grammes de graines de moutarde, donc très important pour relever le fond de la curry. Du gingembre, pareil, une bonne cuillère de gingembre, une saveur qui va être fraîche et puis qui va donner un petit peu le côté citronné. Une mesure de fenugrec. Bon, le fenugrec, c'est quelque chose qu'on ne peut pas...
C'est médicament.
C'est médicamenteux, on ne peut pas l'oublier. Pourquoi ? Parce que c'est... Alors, ça a un goût un peu amer, légèrement farineux.
Oui, il ne faut pas en mettre trop, quoi.
Non, il ne faut pas en mettre trop. Mais par contre, elle a une saveur... Elle est très riche, tu sais, quand on la torréfie. Elle a une saveur particulière et elle va permettre de donner beaucoup de...
Légèrement fumée, voilà, une petite saveur légèrement.
Déjà une odeur qui est extraordinaire, mais une saveur, une connaisseuse apparemment sur ma gauche, qui a l'habitude de cuisiner le fenugrec. Et donc, en fait, ce sont les bases. Ensuite, on peut y rajouter absolument ce que l'on veut. Je rebondis très rapidement sur la recette. Le curry, c'est exactement le mélange d'épices qu'on veut, comme la curry façon masala, donc il serait plus une base de pâte fraîche. Et nous, on a le curry. Toutes ces graines, en fait, on va simplement les passer au moulin. Très simplement, et les mettre ensuite une fois. Donc, alors, les faire torréfier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans une poêle, si vous n'avez pas de gaz, soit un gaz, une poêle très très chaude, soit au four, on met les graines, on les laisse torréfier.
On remue.
Non, il n'y a pas besoin de les
mais
remuer.
Mais elle ne va pas cramer, elle ne va pas
non,
brûler.
Non, parce qu'en fait, la poêle, elle est hors du feu, hors du four.
Ah.
Je répète, on met d'abord la poêle chaude au four si on n'a pas de gaz, ou dans le gaz chaude, vide, sans rien dedans. Voilà. Une fois qu'elle est bouillante, on va mettre.
Ah oui, d'accord. On met les épices dedans et on les laisse.
On ferme avec le couvercle. On laisse torréfier. On laisse refroidir la poêle. Et on recommence 3 fois la même chose. 3 fois l'expérience. Une fois que c'est fait, vous avez une torréfaction qui est parfaite. Pourquoi ? Ça, c'est une astuce du chef. Bien évidemment, avant, on la faisait sur le gaz. Et j'avais des messages que je recevais en me disant, ouais, mais chef, elle fait quoi ? Moi, je brûle. Surtout les graines, ça brûle très, très vite.
Et ça brûle vite.
Et donc,
ouais.
Quand c'est brûlé, ce n'est plus torréfié. Donc, on va avoir le goût.
Ah oui, quand brûlé, c'est cramé, oui, effectivement.
Voilà. Donc, cette technique, elle fonctionne plutôt bien. Après, c'est vrai que ça met un peu plus de temps qu'une torréfaction normale. Donc, vous passez le tout bien chaud. Hop. Vous passez le tout au moulin et vous laissez donc tiède dans le pot. Donc, un parfait, c'est très bien. Les pots avec, les parfaits, je rappelle, c'est des pots avec une espèce de bandelette en caoutchouc.
Les pots à conserve.
Exactement, qui va permettre.
De nos grands-mères.
Comme nos grands-mères faisaient, on n'a rien inventé, hein, Manu, comme
c'est
tu
sûr.
Sais. Et donc, vous pouvez conserver à peu près ce curry un an et demi. Voilà pour la recette du curry.
Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve après la pause pour des recettes, une recette du Jaipur Café de Thai Absied. Et puis, on continue à parler du ftour en Inde et au Punjab.
Ftour du monde.
Ftour du monde.
Ftour du monde. Reviens dans un instant. Ftour du monde avec le chef Voilà et Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour sur le plateau du Ftour du monde du chef Voilà avec le chef Voilà, comme son nom l'indique,
et voilà.
Selma et notre invité.
Bonjour.
Tayab Sied du restaurant Jaipur Café. Alors Tayab, vous nous avez amené une petite recette simple. Alors les auditeurs, prenez un petit papier, un petit stylo pour noter la recette de Tayab Sied, le poulet tandoori qui est un grand traditionnel Tayab de la cuisine indienne.
Avant qu'il commence, juste une petite précision, parce que bien sûr, en radio, on ne voit pas, on n'entend que les voix, on ne voit pas les fiches techniques. Il a pris soin, chers auditeurs et chères auditrices, de vous donner les valeurs nutritives par portion, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare et d'assez exceptionnel.
Donc,
parce que
donc on parlait de l'alimentation santé en Inde.
Donc d'où l'alimentation santé en Inde, et donc d'où aussi, vous allez pouvoir, si vous désirez faire ce plat, et vous avez le temps pendant le ramadan, savoir exactement ce que vous mangez, je trouve que c'est vraiment bien.
Alors d'ailleurs, on va donner d'abord la recette, et puis après on donnera les valeurs nutritives pour les auditeurs que ça intéresse.
Le poulet tandoori, c'est fait une recette allégée. Et donc, on commence à direct, ouais.
De quoi on a besoin?
C'est pour, donc la recette pour 4 personnes, donc on a besoin pour tous ces poulets, voilà, 4 cuisses de poulet, 175 mg de yaourt nature, 1 cuillère café garam masala, 1 cuillère café gingembre.
Gingembre. Ouais. Tu nous as parlé en anglais, là.
On traduit quand tu peux.
En anglais.
Oui, mais c'est vrai. Il y a certains mots que je dis face.
C'est pas grave. Si tu parles en anglais, ça va.
Allez-y, vous inquiétez pas. Allez-y, Tayab. Allez-y.
Là, bon, voilà. Alors, 1 cuillère café ail. Toujours, comment on dit
Haché.
Alors, demi-cuillère café piment poudre. Alors, un quart café, cuillère café du cumin. Alors, donc, j'aurai un cuillère café de coriandre en poudre. Un cuillère café soupe de, en fait, un jus de citron. Un cuillère café de sel. Alors, après, vous pouvez rajouter tandoori masala qu'on avait parlé au début. Donc, pour ajouter la couleur.
Excuse-moi, je me suis dit, une cuillère à café de jus de citron. Une cuillère à café de jus de citron, c'est tout? Juste une cuillère à café
tout
ou
tout
c'est
pour 4 personnes. Hein.
Ah, ouais. Pour 4 personnes.
Ouais, pas plus. Hein, ouais. Voilà. Et donc, ça, comment on peut servir après ensuite, en fait, je le dis, hein, voilà.
Allez-y, ouais, Daniel.
Ouais. Ok.
Déjà, ça commence à sentir bon.
Oui.
Ça commence seulement.
Alors, prenez le poulet, enlevez le pot, marinez avec la sauce que je viens d'expliquer, donc avec le yaourt, tout ça. Donc, ça, quand vous marinez, vous laissez au moins minimum 3 heures.
3 heures pour que ça imprègne bien le poulet, comme ça le poulet va être tendre. Hein.
Voilà. Alors, donc là, c'est pour réchauffer le four avant. Donc,
d'accord.
Ça devait être minimum 240 degrés.
OK.
Alors, donc, après, ensuite, vous mettez tout ce que vous avez mélangé, la viande, et vous mettez dedans. Donc, environ, ça prendra 20 ou 25 minutes.
20-25 minutes pour que le poulet reste bien tendre.
Tendre, qui ça donne un peu de couleur,
entre le jaune et le rouge, un petit
tout
peu.
Tout à fait,
ouais,
exactement.
Ça a une couleur.
Et ensuite, vous pouvez sortir, vous pouvez garnir avec la salade, du citron et du.
D'accord.
Du
on sert avec un petit riz basmati. Alors, exactement. Non, dans Open Jab, c'est plus avec le pain, donc, avec les nanes.
Ouais, ouais. Poteau, en fait, nous, on sert avec l'entrée, comme l'entrée, donc toujours avec le pain. Et donc là, on peut manger très facilement avec du riz aussi, avec le légume aussi, tout ça, donc ça passe très bien. Voilà.
D'accord. Alors, Tayab, il y a une question que je me posais, parce que c'est vrai que l'Inde, elle est majoritairement sikh ou hindouiste, hein, mm-hmm. tandis que le Pendjab, lui, est majoritairement musulman, surtout du côté pakistanais.
Exactement.
Est-ce que ça a une influence sur... on parlait du sud qui était végétarien et du nord qui était qui mangeait plus de viande. Est-ce que ça a une influence, cette différence de répartition des religions en Inde, est-ce que ça a une influence sur la cuisine des diverses régions?
Alors, franchement, c'est pas du tout. En fait, moi, quand je parle de Punjab, c'est un côté l'Inde, soit au Pakistan, au Pakistan, c'est la même culture, la
d'accord.
même façon de manger. Mm-hmm. Derrière la même langue, on comprend exactement le même Punjab qu'en fait on parle, à part l'écriture. Nous, quand on lire au cri par la droite, comme l'arabe, mais eux, c'est par la gauche, donc c'est proche plus le hindi. Mais sinon, c'est au niveau du nourriture, c'est en proche, en fait, hein, beaucoup.
D'accord. Alors, est-ce que pendant le ramadan, il y a des recettes en Inde qu'on cuisine plus pendant le mois de ramadan que pendant le restant de l'année?
Ah oui, là, comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au beignet. Alors là, c'est...
Les fritures, ah,
c'est
ouais, les
beignets. Quoi. On peut
vous
dire...
l'avez pas, la shorba, comme nous?
Donc, comme on dit... si on prenait une famille normale qui ne font jamais le béni, au général, ils mangent le chapati, du riz, tout ça.
D'accord.
Mais pendant le ramadan, ils sont obligés.
En fait, donc tous les samosas, les pakoras, qui sont les beignets, soit
exactement.
Légumes, soit ou autres,
oui.
qu'on mange, qu'on trouve partout dans les restaurants indiens.
Exactement.
Quand on est en Inde, c'est quelque chose qu'on ne fait pas régulièrement à la maison, c'est vraiment pour les moments de fête et notamment pour le mois du ramadan.
Exactement. C'est tout le jour que chaque maison peut parler le béni, tout ça. C'est
d'accord.
très important. Rajoutant avec le soupe, évidemment. Comme la boisson que je vous ai parlé, et grillade aussi, en même temps, comme on dit kebab, donc comme on en a parlé tout à l'heure, donc avec le poulet tandoori que je viens de vous expliquer la recette, et ensuite, toujours, on a du plat aussi, c'est base de viande, au légume, tout ça, et après, c'est très connu le plat, je ne sais pas, vous n'avez jamais goûté chez moi, donc je vous ferai goûter la prochaine fois, c'est biryani.
Ah, le biryani, oui, alors, je connais, mais je n'en ai pas mangé chez vous, effectivement.
Voilà, donc c'est biryani,
c'est très bon le biryani. Ouais,
on fait ça aussi, occasion, pendant le ramadan, plusieurs fois.
C'est vraiment festif. Hein.
Ouais. Le ramadan, vous savez, c'est comme le festif. Hein, en fait,
c'est vrai.
On est content, on est doux, donc on a ça plaisir toujours.
Ouais.
Et ce qui m'a surpris
alors,
sur le.
Pardon.
Vas-y, je te laisse.
On parle beaucoup de nourriture salée, mais alors c'est vrai que dans les pays du Maghreb, le ramadan, on mange quand même des kilos de sucre. Alors beaucoup de pâtisseries, etc. Est-ce qu'on mange des choses sucrées pendant le ramadan en Inde?
C'est une soupe en Inde. Une soupe qui est très connue en Inde.
Si. si, il y a du soupe, il y a du tout, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, il y a du tout le soupe aussi, évidemment, dans la cuisine.
Donc des soupes sucrées, c'est à base de quoi?
Non, il n'y a pas de soupe.
Ah, pardon.
Sucrée. Je parle de soupe.
Non, de soupe, oui, il y a le oui, d'accord.
On avait des soupes qui avaient
voilà,
de sec.
Mais je parle, ça c'est kir, hein. On dit kir, ça part du
riz. Avec des lentilles aussi.
Voilà, avec le lentille aussi, on a gâteau de lentille aussi, on a du gâteau de semoule aussi. Halwa, comme on dit. On a du
gâteau de. C'est halwa, c'est ça?
Halwa, halwa.
Halwa, d'accord.
On dit ça.
Vous parlez arabe maintenant?
Halwa, halwa.
La France que je suis avec vous, donc je commence à parler. Donc, et il y a du gâteau coco, comme je viens d'expliquer, fait très fameuse kulfi.
Alors, le kulfi, ça, j'adore ça, c'est une espèce de glace maison. Exactement. À la pistache, qui est très bonne chez vous d'ailleurs.
Ça prend très très
et
long,
c'est là qu'on peut
pareil.
C'est là qu'on voit la vraie couleur de la pistache, parce que quand on voit des choses à la pistache dans un supermarché ou sur un
c'est décolorant.
Voilà, ouais, c'est vert fluo.
Bah voilà.
Mais
voilà.
Chez vous, le kulfi, il est entre le marron et le vert, vert kaki un peu, c'est la vraie pistache.
Le nom.
Et le goulab jamon.
Le goulab jamon aussi, évidemment, ce goulab jamon.
Alors ça, c'est intéressant, c'est des boules de lait frites. C'est quoi? C'est fait comment?
Le France, on est, tous les restaurants indiens ou pakistanais ou tout ça, ils ne sont pas très forts au niveau du dessert. Alors donc, on a du large dessert, mais on ne peut pas présenter tous ici. Donc,
d'accord.
Donc ils sont très limités. Ils arrêtent souvent avec le gulab jamun, kulfi, gâteau semoule, coco, et ça s'arrête là toujours.
Ok.
Mais il y a du vaste dessert qu'on peut rajouter dedans, tout ça. Donc je vous ai fait la présentation la dernière fois, vous avez vu toujours le nouveau dessert que j'ai présenté avec le glace indien, avec mélange avec le gâteau coco, c'était présenté aussi très.
Ok. Alors Tayyab, je rappelle que à partir de demain soir et tous les soirs du Ramadan, vous proposez pour les auditeurs de Beurre FM un super menu ftour exclusif, enfin iftar comme on dit chez vous,
ouais,
exclusivement pour les auditeurs de Beurre FM, un buffet à volonté avec que des produits frais, des viandes et des volailles halal à 19,90 euros.
Ouais.
Donc vous êtes au 15-17 rue des Messageries à Paris 10e. Le numéro de téléphone 01 48 01 06 00. C'est passé très très vite. Il va être temps de rendre l'antenne pour l'émission suivante. Donc restez à l'écoute pour l'émission Ramadan & Co. Philippe Robichon et ses invités vont vous parler de la consultation. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le chef Voilà. Nous recevrons Rania.
Pour essayer de faire une recette.
Voilà. Et on essaiera de faire une recette et on recevra Rania pour parler de la tradition du ftour en Palestine et quelles sont les recettes préférées des Palestiniens pendant le Ramadan. À demain.
Retrouvez Ftour du Monde tous les jours de 18h à 19h sur Beurre FM.